Europe Soir, Céline Géraud.
Allez, on est ensemble jusqu'à 20h. Et au sommaire de cette prochaine demi-heure, on va échanger, débattre autour de ce défilé du 14 juillet. Quel message ce défilé veut-il faire passer? La position de la France dans le conflit en Ukraine est-elle tenable? Le budget de la défense est-il suffisant? Quel avenir pour le service national universel? Autant de thèmes que nous allons aborder ce soir avec Bénédicte Chéron, historienne, spécialiste des questions de défense et auteur du Soldat méconnu aux éditions Armand Collin. Bonsoir Bénédicte Chéron.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct. Je salue également le général Dominique Trinquant qui est avec nous dans le studio, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, avant de vous entendre, on va faire un petit détour tiens par le ministère des Armées où le président de la République effectue la traditionnelle revue des troupes. Nous retrouvons tout de suite notre reporter William Molinier en direct. Bonsoir William.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
Alors, quelles seront les nouveautés de ce défilé demain, William ?
Alors deux nouveautés principales. D'abord le Jaguar, le nouvel engin de reconnaissance et de combat de l'armée de terre qui doit donc défiler demain pour la première fois. 25 tonnes de blindage, un canon de 40 mm, c'est un véhicule ultra connecté. Il est conçu pour évoluer en zone urbaine et montagneuse. C'est en quelque sorte l'illustration de la montée en puissance de l'armée de terre dans un contexte de guerre de haute intensité. Autre nouveauté, pour la première fois, un drone Reaper de l'armée de l'air sera intégré au défilé aérien. Il va décoller depuis la base aérienne de Cognac et rejoindre les Mirages et les Rafales dans le ciel de Paris. Un drone de 20 mètres d'envergure, sans pilote à bord et donc commandé à distance. Alors du côté de la symbolique, ce défilé doit mettre aussi en avant la solidarité stratégique de la France avec les alliés. D'ailleurs, pour la première fois, les drapeaux de l'Union européenne et de l'OTAN sont apposés sur les écussons officiels du défilé. Les emblèmes des 9 États membres du flanc Est défileront en tête, suivis d'une centaine de soldats, des missions de réassurance. 3 canons César descendront aussi les Champs-Élysées, vous savez, ces canons que la France livre à l'armée ukrainienne dans le Donbass. À l'Élysée, on répète que la symbolique de ce défilé militaire cette année sera à l'image de la position de la France dans ce conflit, à savoir que la France aide l'Ukraine à se défendre, mais qu'elle n'est pas en guerre contre la Russie.
Merci William Molinier en direct de l'hôtel de Brienne pour toutes ces précisions précieuses. Je vous pose la question directement à vous, Général Dominique Trinquant, par rapport à ces nouveautés et surtout ce message. Le défilé mettra en avant notre solidarité stratégique avec nos alliés et la capacité de la France à faire aux défis stratégiques du moment comme puissance d'équilibre et d'entraînement. Ça, c'est le message officiel de l'Élysée cette semaine.
Oui, non, mais c'est très intéressant de voir le drapeau de l'OTAN et de l'Union européenne affiché conjointement. Parce qu'on arrive à un phénomène assez étonnant, c'est que pendant plusieurs années, la France a prôné l'autonomie stratégique de l'Europe. Et puis le conflit en Ukraine a ressuscité l'OTAN, qui était en mort cérébrale, il faut le rappeler, il y a à peu près un an et demi. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, en fait, l'OTAN, c'est d'une part le pilier européen de l'OTAN, plus les Américains. Et on se rappelle que face aux menaces principales, on a besoin des Américains, mais qu'il faut quand même développer le pilier européen de l'OTAN et donc l'autonomie stratégique de l'Europe.
Bénédicte Chéron, historienne spécialiste des questions de défense, votre avis, qu'est-ce que ce défilé vous inspire ?
En fait, les 14 juillet sont toujours dans l'histoire, en tout cas depuis qu'ils ont cette régularité et cette régularité politique aussi, dans l'utilisation, dans la manière dont les présidents de la République successifs s'insèrent dans cette tradition du 14 juillet. Ils sont toujours le réceptacle de l'actualité et puis d'un certain nombre de volontés d'affichage politique, de mise en avant de symboles qui sont des choix politiques. Et donc ce 14 juillet, comme tous les 14 juillet, effectivement, répond à une actualité, répond à un certain nombre de choix qui sont présentés comme tels. Après, il ne faut jamais accorder une importance trop importante à ces affichages au moment du 14 juillet, parce que bien sûr, ils ont un rôle symbolique qui est important, mais on sait aussi qu'ils peuvent être parfois très conjoncturels et ne pas donner de résultats toujours à long terme. Et on a des exemples par le passé d'un certain nombre d'affichages qui n'ont pas forcément produit les fruits qui étaient attendus. Donc voilà, ils existent, il faut les prendre comme tels, et il faut aussi les prendre avec mesure et recul historique.
Alors, vous parlez justement de la posture, en tout cas du message, du symbole sur ce défilé. On va maintenant parler de la position de la France dans ce conflit en Ukraine qui s'enlise. William Molinier le disait tout à l'heure, 3 canons César vont défiler. On va rappeler que la France a donné 12 canons César à l'Ukraine, mais reste en retrait. Général Trinquant, est-ce que la posture de la France dans ce conflit est tenable? La ligne actuellement tenue par la France qui reste malgré tout en retrait. On le rappelle, c'est la seule puissance nucléaire d'Europe à disposer d'un modèle complet.
Oui, mais elle n'est pas en retrait, elle est conforme à tous les pays européens qui s'engagent alors de deux manières. La première manière, il faut le rappeler quand même, la France a déployé un bataillon en Roumanie extrêmement rapidement puisqu'elle faisait partie de la force de réaction immédiate de l'OTAN. Elle a déployé des rafales au-dessus de la Pologne. Elle a renforcé le dispositif en Estonie que nous étions censés quitter. Elle l'a maintenu. Elle a maintenu également un grand exercice en Norvège, le front nord de l'OTAN. Donc tout ceci, c'est la réassurance, c'est-à-dire l'OTAN se prépare et dit « ne franchissez pas la frontière de l'OTAN » à M. Poutine, parce que ça sera la guerre avec l'OTAN et vous la perdrez. Mmh. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de renforcer l'armée ukrainienne qui a été agressée. Article 51 de la Charte des Nations Unies, un pays agressé peut demander à ce qu'on l'aide, et c'est ce qu'il fait. Et les pays occidentaux, pour parler de façon générale, puisqu'il y a les États-Unis dedans, renforcent en donnant des matériels. Et donnant des matériels performants, parce que, si vous voulez, les États-Unis, ils donnent des stocks qu'ils ont en position en France, dont ils ne se servent pas. La France, elle donne du matériel issu de l'armée française. Mmh. Donc c'est un vrai sacrifice que l'armée fait l'armée française. Donc je pense que ces deux façons de s'engager sont à mettre en lumière. Fournir du matériel, aider les Ukrainiens dans leur combat, ce que j'appellerais le combat vers l'avant avec la Russie. Et deuxième point, renforcer la frontière de l'OTAN.
Mais il y a eu quand même ces déclarations d'Emmanuel Macron qui ont semé un peu le trouble. Hein. Je veux parler de sa déclaration, il ne faut pas humilier la Russie. Vous vous en souvenez, Bénédicte Chéron, quand je parlais de posture, c'était aussi à ça que je pensais.
Oui, alors cette question de l'humiliation en relations internationales, hein, il y a des collègues universitaires qui en sont vraiment plus spécialistes que moi, mais on sait que c'est une notion qui est compliquée à manier, hein, parce qu'elle renvoie aussi à une part de subjectivité, évidemment, de la manière dont les acteurs internationaux ressentent un certain nombre de faits, de choix, de décisions posées par leurs partenaires, par leurs adversaires. Et elle est complexe à manier. Et on voit bien que la manière dont le président la manie, effectivement, depuis quelques semaines et quelques mois, même peut-être maintenant, amène ces polémiques. Je crois surtout que pour ma partie, hein, qui est vraiment d'essayer de comprendre ce que les Français saisissent de cette action politique et de cette action militaire, ce qui est très important, parce qu'il faut rappeler qu'une armée professionnelle agit au nom de l'ensemble de la communauté nationale, c'est-à-dire que les militaires agissent au nom de leurs concitoyens. Il y a vraiment un enjeu, hein, d'exposition claire des moyens militaires dont dispose la France, parce que c'est souvent ce qui pêche un peu dans ce débat. C'est effectivement, le général Trinquant le disait, hein, c'est qu'il y a une part de sacrifice, hein, qui est fait quand on donne du matériel militaire à d'autres acteurs de la scène internationale. Et il faut avoir conscience que ces moyens militaires français ne sont pas infinis, sont limités. Et c'est vrai qu'on sort d'une période, par exemple, de campagne présidentielle et de campagne législative où les débats de défense ont été réduits à la portion congrue. On a beaucoup parlé de l'actualité internationale.
C'est vrai.
Mais les Français n'ont pas eu beaucoup plus que d'habitude l'occasion de comprendre quels sont leurs propres moyens militaires, comment s'articulent et s'organisent leurs armées. Et c'est vrai qu'il y aurait peut-être aussi là une branche à saisir pour pouvoir davantage expliquer aux Français ce qu'est leur armée, comment elle fonctionne et de quels moyens elle dispose.
Mmh. Alors l'argent, hein, ce n'est pas un scoop, hein, reste le nerf de la guerre. Conformément aux prévisions inscrites, hein, dans la loi de programmation militaire 2019-2025, le gouvernement a demandé une augmentation du budget de la défense de 3 milliards d'euros pour 2023. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, veut porter le budget de l'armée à 44 milliards d'euros. Général Trinquant, est-ce que c'est suffisant pour mettre à niveau les forces françaises? Sont-elles véritablement taillées pour faire face aux menaces avec un tel budget, quand on sait que l'Allemagne, par exemple, vient de débloquer 100 milliards d'euros?
Oui, alors je pense qu'il faut... recul historique était dit tout à fait. Il faut se rappeler que pendant 15 ans, les budgets de la défense ont baissé régulièrement. Qu'il n'y a que depuis 5 ans que le budget des armées a augmenté d'1,7 milliard par an, tous les ans. Et cette année, dans la loi de programmation, il est prévu pour 3 milliards. Donc ça, c'était avant la guerre. Et avant la guerre, la France avait déjà pensé à réparer. Mmh. Mais il s'agit bien de réparer l'armée. Donc c'est ce qui a été fait. Si vous faites une comparaison avec les Allemands, le chef d'état-major de l'armée allemande, au début de la guerre en Ukraine, a commencé par dire « je ne peux rien faire, je n'ai rien ». Il est évident qu'un chef d'état-major français n'aurait jamais dit ça. Il faut faire la part des choses. Les armées allemandes ont besoin de se construire. Les armées françaises ont besoin de se réparer. Elles ont toujours existé. avec le spectre complet, comme vous l'avez souligné très justement tout à l'heure. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a eu la guerre depuis le 24 février. Et que donc, il va falloir revoir ça. Alors, il est prévu, le président Macron l'a dit, le ministre, Monsieur Lecornu, l'ont dit également, il va y avoir une révision de la revue stratégique qui va être faite à l'automne, et avec une nouvelle commission de la défense, nouveau parlement, et qui va réévaluer en fonction de la menace. Maintenant, soyons clairs, moi j'entends beaucoup parler sur les chaînes partout des problèmes de vie des citoyens français, assez peu de la défense.
Et on parle beaucoup du pouvoir d'achat, voilà, c'est vrai, et moins du budget de la défense,
exactement.
Forcément.
Et le point choix entre pouvoir d'achat et armement, ça va être un sujet très important. En d'autres temps, on parlait du beurre ou des canons. Mmh. C'est un petit peu ça qui va se présenter et qui va poser un vrai sujet. Et la question est de savoir si nos citoyens sont vraiment conscients du danger qui nous guette ou s'ils pensent que tout ça, c'est très loin et que finalement, ça ne nous touchera pas.
C'est
et
en que Europe, notre pouvoir c'est d'achat... pas si loin que
mais
ça,
d'accord,
effectivement.
Écoute, non,
vous et ça a une véritable incidence sur notre quotidien.
Moi, je
évidemment.
Pense que si vous voulez, aujourd'hui, il faut aller plus loin que l'effort qui était prévu dans la loi de programmation, avec des choix, hein, pas seulement en enveloppe budgétaire, mais à l'intérieur de cette enveloppe budgétaire. Plus artillerie, d'artillerie solaire, moins de je ne sais pas quoi. Il va falloir faire ces choix-là parce que nous avons globalement... J'étais à des réunions il n'y a pas très longtemps avec des hauts responsables militaires qui disaient « Nous avons 3 ans de possibilité de remonter en puissance. Après, il sera peut-être trop tard.
Ah. » Bénédicte Chéron, sur cette prise de conscience des Français sur l'enjeu de la défense face à d'autres problématiques du quotidien.
Oui, il y a un relatif consensus budgétaire dans l'opinion publique française depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies. Depuis les années 90, de manière assez stable, un large consensus qui se dégage dans les enquêtes d'opinion sur la nécessité à minima de maintenir le budget des armées. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet clivant pour l'instant, mais il est vrai que dans une période de forte crise économique, de forte crise du pouvoir d'achat, évidemment, ça peut devenir une question. Et je pense que l'enjeu est vraiment là encore, la parole politique soit la plus claire possible, parce qu'il est vrai qu'on a une parole politique, et ce n'est pas simplement la parole politique actuelle, c'est assez ancien, qui a une tendance effectivement à ne pas exposer au grand jour un certain nombre de débats budgétaires, de débats sur les capacités des armées, parce qu'elle a l'impression, cette parole politique peut être marquée par l'antimilitarisme des années 70, que si elle expose trop clairement, elle risque précisément de perdre ce consensus budgétaire.
Or, mais qu'elle expose quoi, c'est-à-dire concrètement ?
Qu'elle expose en fait quels sont précisément les choix qui s'offrent à l'autorité politique, aux autorités politiques, à la représentation politique en termes budgétaires pour les armées, et puis qu'elle explique aussi clairement quelle est la fonction des armées dans la société française et au service de la société française. Parce qu'on a aussi des responsables politiques qui ont une tendance à solliciter les armées depuis quelques années pour faire face à toute crise, quelle que soit la nature de la crise. On l'a vu dans le contexte de la crise sanitaire, avec des déploiements militaires en fait assez limités en nombre, mais assez conséquents en termes de communication politique. On le voit en termes de déploiements sécuritaires aussi, par le biais de l'opération Sentinelle qui continue d'être pérennisée sans qu'on sache très bien finalement si un jour elle aura une limite, quels sont ses effets concrets, etc. On le voit par exemple aussi quand le politique a recours aux armées de manière de plus en plus massive pour encadrer des dispositifs socio-éducatifs à destination de la jeunesse. Et en fait, ce ne sont pas forcément des emplois qui grèvent de manière nette le budget des armées. En revanche, ce sont des emplois qui dispersent les armées de leur fonction première qui est de se préparer à la guerre. Et ce sont aussi des missions qui viennent brouiller la compréhension que les Français ont des questions militaires et des questions de défense. Et si la fonction des armées est simplement d'être une rustine ou un palliatif à toutes les crises que rencontre la société française, il sera difficile de continuer de justifier des budgets conséquents pour lui donner les moyens de faire la guerre.
Effectivement. Alors Emmanuel Macron a demandé au chef des armées, le général Burkhard, de faire une réévaluation en raison de la guerre en Ukraine. Vous l'avez dit, général Trinquant. L'urgence, elle porte actuellement sur les stocks de munitions, la modernisation du matériel de dissuasion. Mais l'inflation, finalement, risque d'absorber les hausses budgétaires qui étaient prévues. On en parlait tout à l'instant avec Bénédicte Chéron, l'opération Sentinelle. Est-ce qu'il faut stopper cette opération ? On le rappelle, l'opération Sentinelle, c'est celle qui fait face à la menace terroriste depuis l'attentat du 13 novembre. C'est la seule économie qui a été proposée par le rapport de Bernard Cazeneuve. Votre avis sur ce sujet ?
Écoutez, c'est extrêmement difficile parce qu'on est en train de parler de la menace dont tout le monde parle depuis le mois de février, c'est-à-dire la menace à l'Est. La menace djihadiste a-t-elle disparu pour autant? Je ne le pense pas. Il faut se rappeler que quand même, les armées françaises ont 4000 hommes déployés au Sahel pour faire face à cette menace, avec les difficultés qu'on connaît. Donc je pense qu'il faut être très très prudent et ne pas se concentrer sur ce qu'on voit sur le bout de son nez et regarder de façon un peu plus large et un peu plus loin. Donc c'est un sujet. Est-ce que les armées françaises... Alors en revanche, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Bénédicte Chéron sur l'éparpillement des missions qu'on pourrait donner aux armées. Les armées, c'est la force armée, comme leur nom l'indique, pour défendre les citoyens français et la patrie. Et donc, vers l'Est, vers le Sud, oui, il y a une raison. Aller faire des rôles socio-éducatifs qui sont réclamés par beaucoup. Pourquoi ? Parce que 85% des Français soutiennent les armées, trouvent que les armées, c'est extraordinaire. Elles sont extraordinaires à condition qu'on les laisse faire leur travail et non pas qu'on les fasse, leur fasse faire d'autres travaux. Oui. Donc là, il y a vraiment un sujet qu'il faudrait étudier sur le fond.
Quand vous parlez d'associatif, c'est-à-dire ?
Ben, on en a parlé pour s'occuper des prisons. Oui. On en a parlé pour s'occuper des écoles qui pourraient s'en occuper. Voilà. Qui me paraissent assez loin du rôle des armées.
Il y a le SNU aussi dont on parle beaucoup en ce moment.
Alors, ça, permettez-moi tout de suite de sauter sur l'occasion parce que je connais bien le sujet.
Le service national universel, je vous écoute.
Oui, le service national universel, il se trouve que j'étais dans l'équipe du candidat Macron il y a 5 ans et que je fais partie de l'équipe qui a proposé le service national universel. Rappelons que ça n'est pas un sujet militaire, c'est un sujet d'éducation, premier point.
Avant, il était rattaché uniquement au ministère de l'Éducation nationale et maintenant, il est rattaché également au ministère des armées.
Pour l'instant, ne sais pas. La même secrétaire d'État qui en est chargée...
C'est une source, Louis Dragnel, service politique, qui me dit qu'il est rattaché aux deux ministères désormais.
Pour moi, il est toujours avec Mme Sarah El Haïry au ministère de l'Éducation, premier point. Deuxième point, à l'époque, pourquoi ça a été fait ? À cause de la menace. Mais à cause de la menace terroriste intérieure. Mmh. Le but, c'était d'obtenir la mixité sociale. Je disais toujours, quand le 9-3 rencontre le 16e, c'est pas mal.
De générer des vocations aussi.
Alors, ça, c'était quelque chose qui n'était absolument pas dans l'esprit des militaires. Mmh. Je me souviens très bien, quand on l'a mis en place, on m'a dit un mur hermétique entre les armées et le service national universel, notamment dans le domaine budgétaire. Mais maintenant, les armées s'aperçoivent que ça peut être un outil de recrutement.
77 000 réservistes,
pour information. Donc, aujourd'hui, et au vu de la menace à l'Est, de l'Ukraine, et de la réaction formidable du peuple ukrainien, on peut se reposer la question du SNU. Ça n'est pas seulement pour lutter contre le terrorisme et assurer la mixité sociale, c'est probablement aussi pour susciter des vocations, voire former dans des domaines, secourisme, etc., qui pourraient être utiles dans le cas d'une menace majeure sur la France. Ça ne va pas permettre seulement de recruter des militaires, mais aussi des policiers, des secouristes, des tas de choses.
Bénédicte Chéron, je reprends une citation de Sébastien Lecornu, c'était dans le Figaro, qui dit « Si le service national universel est un moyen de cultiver une culture de résilience, d'apprendre les premiers secours, d'avoir une culture militaire, les armées y seront plus ouvertes. » Votre avis sur ce service national universel? Alors, je sais que c'est un sujet que vous maîtrisez aussi.
Oui, je ne vais pas m'exprimer au nom des armées, ce n'est pas mon rôle. En revanche, je suis très gênée par la tendance qu'on a à employer toutes ces notions de mixité sociale, de résilience, de culture de défense, de culture de la résilience, de façon un peu creuse et molle, en fait. Et on voit que le SNU est un dispositif flou, dont on sait pour l'instant qu'il y a quand même une question problématique, qui est de rendre obligatoire un séjour en milieu fermé pour des mineurs entre 16 et 18 ans pour 15 jours. Si jamais il devenait obligatoire, ce serait quand même une question, parce qu'il faut pouvoir le faire, le légitimer, cette obligation. Et on voit bien qu'en fait, dans des sociétés démocratiques, c'est quasi impossible de légitimer une telle obligation. Et c'est d'autant plus difficile à légitimer quand on est sur des objectifs qui sont flous et mouvants. Et on voit bien d'ailleurs dans ce que dit le général Trinquant que les objectifs de 2017 ne sont plus ceux de 2022, que peut-être on pourrait y mettre de nouveaux objectifs. Et en fait, on est sur un objet mouvant, un objet flou. Et on sait par l'histoire du service militaire et du service national qu'en fait, le service national passé s'est délité précisément à partir du moment où ses objectifs sont devenus mouvants et flous et on est sorti de ce qu'était le service militaire pur et dur, si je puis dire, avec une finalité très claire qui était d'apprendre aux jeunes hommes français à tenir un fusil pour défendre la nation. Et donc cet objectif flou me semble en fait assez peu propice à développer une culture de la résilience parce qu'à mélanger tous les sujets, on finit précisément par ne plus rien faire comprendre à une société. Et les Britanniques, hein, qui ont beaucoup plus travaillé que nous sur la résilience, ont bien montré que les sociétés résilientes en démocratie sont celles dans lesquelles les débats sont posés clairement et les sociétés dans lesquelles chacun a une claire conception, une claire clairvoyance de son rôle dans la société et précisément de la différence des responsabilités des uns ou des autres. Les responsabilités des administrations civiles, par exemple l'école, ne sont pas les responsabilités des armées, ne sont pas les responsabilités de la police, ne sont pas les responsabilités de la justice. Mmh. Et on est là dans un objet mouvant et flou qui est en fait assez peu propice à la compréhension des enjeux de défense. D'ailleurs, on sait que quand encore un garçon sur deux faisait un service militaire à la fin des années 80, dans le même temps, les Français, on a énormément de données pour arriver à le diagnostiquer, avaient en fait une vision très diluée de ce qu'était la défense nationale, preuve qu'il ne suffit pas de fréquenter vaguement la vie militaire avec ses symboles et ses rites pour bien comprendre ce qu'est la défense nationale.
Général Trinquant,
oui, alors,
vous avez une posture un peu différente,
oui,
hein, évidemment.
Complètement, parce que flou et mouvant, mouvant, c'est comme la menace. La menace est mouvante, on s'adapte à la menace, premier point. Mm-hmm. Flou... Eh bien, justement, il faut préciser les choses.
Pardon, Bénédicte Charron.
Oui, en fait, c'est gênant de se dire qu'en fait, on crée un dispositif obligatoire dont la seule fonction est de s'adapter à des menaces qui vont évoluer. On voit bien qu'il y a là un problème de conception initiale et de définition qui repose pour une part, hein, si je puis me permettre, sur une mythologie de ce que fut le service national. Je m'arrête et pardon d'avoir interrompu.
Non mais c'est intéressant, oui, donc vous reveniez sur la notion de mollesse.
Je dis simplement mouvant, oui, bah, quand la menace évolue, il faut faire évoluer les concepts. Flou, eh ben, il faut le rendre précis. Mm-hmm. Et il faut bien... Je rappelle que le service national universel, pour l'instant, a été l'objet d'expérimentations auprès de personnel volontaire. Donc les conclusions sont forcément tronquées quand on s'adresse à des volontaires.
Oui, c'est du volontaire. Donc c'est des jeunes qui ont une notion d'engagement.
Voilà. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut réfléchir à la façon dont les citoyens, dans la résilience, peuvent être associés. Et je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, pour l'avoir beaucoup pratiquée, puisque je n'ai commandé que des appelés, mais après 18 ans, la jeunesse a beaucoup évolué. Et il y a un moment où il faut lui poser des questions claires sur son rôle dans la nation, sur la défense de la nation. Et je répète, ce n'est pas forcément uniquement le rôle des soldats. Les soldats, ils s'engagent pour faire ça, c'est clair. Mais la défense de la nation, ça peut être un sujet beaucoup plus général.
En attendant, Emmanuel Macron a chargé son ministre de relancer cette question des réserves du service national universel, d'un rôle social des armées, donc dans un pays qui devrait affronter des crises à l'horizon 2030. J'aimerais vous entendre aussi sur la plus grosse opération militaire qui se déroule en Afrique de l'Ouest, avec plus de 5000 militaires dans la bande sahélo-saharienne. C'est une présence militaire de plus en plus contestée. On a été chassés du Mali, on le rappelle, par la junte. Les troupes sont descendues plus au sud. Mais est-ce qu'il faut s'entêter, Général Trinquant ? On est le seul pays d'Europe massivement présent sur ce continent.
Alors, oui, mais de toute façon, en Afrique, nous sommes les seuls, les Français, à être présents. Mmh. Avoir des bases dans tous les coins de l'Afrique et le centre de l'Afrique. Donc, évidemment qu'on peut se poser la question. Le combat au Sahel, je le rappelle, a été fait à la demande du Mali. L'opération Serval, c'est le Mali qui l'a demandé.
Ils avaient demandé de l'aide, effectivement.
Le Mali a connu un coup d'État, et un coup d'État dans le coup d'État. Et maintenant, j'allais dire, la junte qui est au Mali est entre les mains des mercenaires russes qui ont une vision complètement différente du combat. La France, donc, a quitté, puisqu'elle n'est plus souhaitée au Mali, elle le quitte. Et en revanche, elle est demandée par le Niger. Elle est demandée par le Burkina Faso, de façon un peu plus pondérée. Elle est demandée par le Tchad. Donc tant que la France est demandée là, elle se pose la question de savoir comment elle soutient. Les Européens qui étaient venus en particulier par la mission de formation au Mali, puis par la formation Takuba, donc les forces spéciales qui avaient été déployées au Mali, se replient. Et aujourd'hui, on le comprend bien, les Européens, ils sont plus inquiets par ce qui se passe à l'Est que ce qui se passe au Sud. Mmh. Donc, cette question, évidemment, il faut se la poser. Il faut se poser la question de savoir s'il y a toujours une menace djihadiste, on peut répondre tout de suite oui, elle existe. Est-ce que les pays africains ont besoin de nous pour combattre ou pas ? C'est à eux de répondre. Le Niger a répondu de façon très démocratique puisque le président a posé la question au Parlement. Et c'est le Parlement du Niger qui a dit « oui, nous en avons besoin ». Et donc, les forces françaises se réorganisent à partir du Niger au Burkina Faso et au Tchad.
Bénédicte Chéron, sur cette présence militaire très forte dans le Sahel.
Oui, je crois qu'à la veille du 14 juillet, là encore, faut vraiment, et les armées le font évidemment, hein, mais saisir ces occasions d'exposer, de donner à voir le débat qui se pose dans l'action des militaires français à l'étranger, la manière dont ils agissent, les sacrifices qu'ils consentent pour agir dans ces régions du monde parfois lointaines. Parce que là encore, on voit bien qu'il y a des effets de focalisation médiatique qui sont inévitables. Hein, on sait que c'est structurel dans le paysage médiatique qui est le nôtre, mais qui ne permettent pas que ces sujets soient posés de manière claire, fasse l'objet aussi du débat politique qui serait sans doute nécessaire pour éclairer nos concitoyens, pour éclairer les Français sur la manière dont ils consentent à ce que des opérations soient menées en leur nom, avec cette pérennité, avec des objectifs politiques qui parfois sont flous et difficilement atteignables. Donc il y a évidemment cette question qui se pose aussi à la veille du 14 juillet, et c'est important effectivement qu'on puisse, et merci de le faire, poser aussi cette question et ne pas être focalisé simplement sur ce qui est le plus visible et le plus proche à nos yeux en ce moment, qui est l'Europe de l'Est.
Effectivement. Alors, une dernière question peut-être sur la posture du président de la République. Vous savez, aujourd'hui, il fait la traditionnelle revue des troupes du côté de l'hôtel de Brienne au ministère des Armées avec un discours très attendu qui devrait avoir lieu en ce moment, au moment où on se parle. On ne saura pas quelle sera la teneur là, tout de suite de ce discours. Ce qui est sûr, c'est qu'on se souvient tous de cet été 2018, le « Je suis votre chef » prononcé par Emmanuel Macron, fraîchement élu, vous pouvez en parler, hein, général Trinquant, avec le départ mouvementé aussi hein, du général de Villiers, chef des armées. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Est-ce que cette fracture, finalement, qu'on avait pu percevoir entre l'exécutif et l'armée, s'est un peu résorbée?
Écoutez, j'ai été présent le 13 juillet 2017.
Oui, c'était 2017.
Et donc, j'ai été présent. Je pense que ça a été un début très difficile, mais difficile par une incompréhension. Incompréhension de la part du général de Villiers qui pensait qu'on allait lui supprimer une partie du budget, ce qui n'a pas été le cas. Le président s'était engagé. Et incompréhension de la part du président de l'époque, c'était la première fracture qu'il y avait, hein, souvenons-nous-en. Parce que, comme je l'ai dit, sur le fond, il avait raison. Le président s'était engagé, il fallait le croire. Mm-hmm. Voilà. Sur la forme, en revanche,
je
l'ai fait savoir, ça se passe dans un bureau, on remonte les cales, comme on dit dans l'armée, entre quatre yeux, et on n'en parle plus, et chacun fait ses choix. Bon, le général de Villiers, à ce moment-là, qui devait déjà partir à la retraite, hein, à l'époque, il avait été prolongé,
a
décidé de partir. Bon, voilà. Depuis, les armées ont vu, j'en reviens à votre introduction, un budget qui a augmenté d'1,7 milliard par an, pour la première fois depuis 25 ans au moins, une loi de programmation qui est intégralement respectée. Donc, si vous voulez, nous aimons bien les preuves d'amour. Mmh. Et le budget, c'est une preuve d'amour. Donc, ça montre que les armées sont capables de se rééquiper, de remonter, sont écoutées, puisque, comme vous le soulignez, le président de la République a demandé au chef d'état-major des armées, au général Burkhardt, de réétudier les sujets. Donc c'est bien aux armées qui s'adressent, avec bien sûr l'aspect politique, puisque tout ceci est encadré politiquement. Mais je crois que, l'affaire a été enterrée il y a 5 ans, ça a été, à mon avis, un peu une maladresse, mais les armées qui ont vu que le président était présent, leur donnaient les moyens. Alors on verra si les moyens seront encore augmentés, et si tendance peut continuer.
Eh bien, merci. On suivra ça évidemment sur Europe 1 avec notre spécialiste et notre équipe de reporters au service politique police-justice, Louis Dragnel, William Molinier notamment. Merci, général Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU qui était avec nous, tout comme Bénédicte Chéron, que je remercie chaleureusement, historienne, spécialiste des questions de défense et auteur du Soldat méconnu aux éditions Armand Collin. Merci beaucoup à vous deux. On reste ensemble, bien sûr, dans quelques instants. Allez, bien sûr, le journal de 19h. Et juste après, tiens, on va parler de la natation. Pour apprendre à nager, c'est important cet été. Et puis, trouver des piscines, des maîtres nageurs. À tout de suite.
Europe Soir, 18h-20h. Céline Géraud.